mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles du monde. Nous sommes le dernier jour de mars, le mardi 31. Au cas où vous ne suivriez pas aussi, on a changé d'heure. Hein. Bon, si vous ne vous êtes pas encore rendu compte depuis hier, sachez qu'il est donc 12h30 et plus 11h30. Voilà. Des infos aujourd'hui, bah j'espère que vous n'avez pas bu du café trop serré ce matin comme moi, parce que les infos elles sont un peu énervantes. On va parler de la situation des livreurs à vélo, des livreurs Uber Eats, etc., qui sont vraiment les esclaves de notre société occidentale moderne. On va parler de la loi Retour, qui vient d'être votée par les eurodéputés, donc à l'Europe, qui n'est pas encore appliquée, mais qui leur promet un sort pas fou du tout à tous ces migrants qui vivent déjà de manière très difficile sur notre territoire. On va parler aussi de la déréglementation dans le champ des OGM, d'un chercheur français interdit d'atterrir aux États-Unis parce qu'il critique un petit peu ce qu'il appelle le technofascisme. Et puis voilà, on va commencer avec tout ça, allez. Un petit point avant cela, c'est plus la météo maintenant qui fait les choux gras des journaux, c'est le prix du carburant, du diesel. La faute à la guerre, paraît-il, et puis ça ne devrait pas s'améliorer tout de suite. En tout cas, le diesel est à plus de 2 euros par litre, bien plus de 2 euros. Et on apprend sans surprise que les géants pétroliers enregistrent des bénéfices exceptionnels. Jamais une telle hausse n'avait été observée, et ce depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Débutée il y a un mois, les frappes militaires états-uniennes et israéliennes ont en effet engendré un bond colossal dans les prix du pétrole brut, hein. Il y a une semaine, le 23 mars, le montant à la pompe dans l'UE affichait 2,06 pour le diesel, ce qui fait 49 centimes de plus par litre en comparaison à la période qui précédait la guerre au Moyen-Orient. Et depuis, je crois qu'on est passé aux alentours de 2,20. Remplir un réservoir de 55 litres de diesel coûtait, donc il y a une semaine, près de 27 euros de plus qu'avant par plein. Dans un rapport qui a été publié ce 27 mars, c'est le réseau Transport et Environnement, la Fédération Transport et Environnement plus exactement, qui est un réseau d'une cinquantaine d'ONG européennes, dévoilait donc que seuls les consommateurs payaient l'addition de cette augmentation. Bien mieux lotis, en effet, les géants pétroliers qui ont des réserves s'apprêtent, eux, en effet, en ce moment, à engranger des bénéfices exceptionnels, et ce, aux dépens des automobilistes. Pas moins de 24 milliards d'euros, en effet, pour les raffineurs et les distributeurs qui opèrent principalement au sein de l'Union européenne, et 45 milliards d'euros, ça c'est pour les producteurs de pétrole brut et les pays producteurs de pétrole. La même dynamique avait eu lieu en 2022, hein, au début de la guerre en Ukraine, à savoir que les compagnies pétrolières, notamment les raffineurs, n'avaient pas seulement répercuté la hausse des coûts du pétrole brut, mais ils avaient aussi augmenté leurs marges, puisque la demande était ça croissait. De quoi avoir triplé donc pour eux les bénéfices du raffinage dans l'Union entre 2021 et 2022 par exemple. Une fois de plus, la souffrance des automobilistes profite aux compagnies pétrolières, déplore Daniel Kiggin, qui est le conseiller principal en politique chez Transport et Environnement. Les compagnies pétrolières ont donc tout intérêt à maintenir l'Europe dépendante des énergies fossiles, car ce sont elles qui bénéficient des flambées des prix. Face à la répétition de ce scénario, il appelle les 27 à instaurer une taxe sur les super-profits et à utiliser les fonds générés par cette taxe, par exemple, pour aider les Européens à devenir moins vulnérables aux futurs chocs pétroliers.
De toute façon, faut pas les écouter, les pécores, ils sont jamais contents.
Les taxes, c'est censé être utilisé pour régler les problèmes des paysans. Et quand on les entend parler, leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie, là.
Ouais, c'est pas faux.
Allez, l'Europe, on va pas mal lui tailler un costard aujourd'hui. D'abord avec ce règlement Retour, le renforcement du règlement Retour, qui est porté par des eurodéputés de droite et d'extrême droite. Il vient d'être validé par le Parlement européen, ce qui ouvre la voie à des négociations ensuite avec les États membres. Le texte, en tout cas, vise à augmenter les expulsions des personnes en situation irrégulière dans l'Union européenne. C'est sa vocation principale, puisqu'il considère que seulement 20% des OQTF sont appliquées et que ce n'est pas assez. Plus précisément, donc, les députés européens étaient réunis en session plénière, c'était jeudi dernier. Ils ont donc approuvé par 389 voix pour, 206 contre et 32 abstentions, l'ouverture des négociations avec le Conseil de l'Union européenne sur un nouveau cadre juridique visant donc à muscler les procédures de retour des personnes en séjour irrégulier dans les États membres. Cette loi permettra en tout cas l'ouverture notamment de centres de rétention de migrants en dehors des frontières de l'Union européenne. C'est sa mesure phare, c'est la création des hubs HUBS ou des plateformes de retour qui seraient situés donc dans des pays hors de l'Union européenne, avec lesquels on va faire des deals, et ces pays accueilleront donc les migrants en séjour irrégulier dans l'un des pays de l'Union européenne, notamment ceux dont on a rejeté la demande d'asile. Ces centres doivent donc se situer en dehors de l'Union européenne, mais dans des pays que celle-ci considère comme sûrs, et avec lesquels chaque État pourra conclure des accords bilatéraux de réadmission. Vous savez que l'Italie, par exemple, envoie déjà des migrants en Albanie. Ils pourront ainsi fonctionner à la fois en vue du retour ultérieur vers le pays de retour final ou bien comme destination finale. Ce règlement vise également à renforcer les sanctions pour les migrants qui refuseraient de quitter le territoire européen. Ils pourraient alors se voir refuser ou réduire certaines prestations et allocations, permis de travail ou encore imposer des sanctions pénales, y compris d'ailleurs de la prison. Sinon, dans les autres petites pépites que renforce cette loi retour grâce au principe de reconnaissance mutuelle des décisions de retour entre États, eh bien les États membres de l'Union européenne pourront reconnaître et exécuter directement une décision de retour qui a été prise par un autre État membre, sans relancer toute la procédure. Donc l'objectif est de rendre inutile la fuite des migrants qui parfois justement échappent à une décision en passant dans le pays d'à côté. Le texte prévoit aussi un allongement possible de la rétention dans des centres de rétention, dans le cadre de procédures de retour, parfois jusqu'à 2 ans, y compris d'ailleurs pour des situations très contestées, notamment celles qui impliquent des familles avec enfants. On les foutrait dans les centres de rétention en prison donc pendant 2 ans. Et d'ailleurs, ça peut être aussi possible en dernier ressort pour des mineurs non accompagnés. Les familles pourront donc être détenues jusqu'à 2 ans dans ces centres et aussi à l'étude dans cette loi l'autorisation d'aller perquisitionner les domiciles des personnes ou bien les sièges des associations qui viennent aider les migrants. Et enfin, pour couronner le tout, la mise en place d'un fichage et d'une surveillance de masse des migrants qui serait étendue, et ce, dès les enfants de 6 ans. Voilà, c'est ça le règlement retour. Il a été donc présenté par la Commission européenne en mars 2025, qui vient compléter le pacte sur la migration et l'asile, adopté lui en juin 2024, qui va commencer à s'appliquer en juin 2026. Pour être définitivement adopté, ensuite le texte doit faire l'objet de négociations tripartites, à savoir entre le Parlement européen, les États membres et la Commission européenne. Et ensuite, bien évidemment, à chaque pays de décider de l'appliquer ou pas.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On se demande si les eurodéputés, d'ailleurs, qui ont voté ce texte, une fois qu'ils ont bien travaillé et rentrent chez eux dans leur petit appartement de fonction à Bruxelles, peut-être ils se font livrer des petits plats tout faits par des livreurs, des livreurs qui sont, eux, justement, souvent des migrants et dont les conditions de travail sont terribles. En tout cas, c'est ce que vient de révéler cette nouvelle enquête. Moins de 6 euros de l'heure, hein, c'est le revenu moyen de ces livreurs des plateformes de livraison, donc Deliveroo, Uber, Stuart, Just Eat, pour ne citer que les plus grosses. Vous savez, ces personnes qu'on voit avec des vélos et des gros paquets accrochés derrière, qui sillonnent notamment, par exemple, la place de la Comédie à Montpellier, à la recherche de leurs plats. Eh bien, ces livreurs viennent d'être le sujet d'une nouvelle étude d'ampleur, Santé Course. Elle est parue donc aujourd'hui. Pour cette étude, 1000 livreurs ont été interrogés, c'était à Paris et à Bordeaux, et c'est Médecins du Monde notamment qui a organisé cette enquête, puisqu'il y a des questions pas mal de santé, mais aussi l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Le tout s'est fait avec l'appui de la Maison des Coursiers, qui est elle à Paris, la Maison des Livreurs, elle à Bordeaux, et Coop Cycle, pour la faire circuler parmi les premiers concernés. Je vous parlerai de ces trois organismes un peu plus tard. En tout cas, Les chiffres sont terribles. Hein. Le millier de livreurs interrogés gagne donc en moyenne 1480 euros bruts par mois, et ce pour 63 heures de travail par semaine. Ça fait donc moins de 6 euros net de l'heure. À cela, en plus, vous pouvez enlever l'achat et l'entretien du matériel, hein, le vélo, la boîte dans laquelle mettre les pizzas et autres sushis, et aussi le paiement des cotisations à l'URSSAF, hein, pour ce qui représente comme 20% de leurs revenus, pour ceux qui sont propriétaires de leur compte d'auto-entrepreneur, puisque certains ne le sont pas, puisqu'ils n'ont pas de papier, on va en parler aussi. Justement, les livreurs qui sont en situation irrégulière souvent empruntent le compte URSSAF d'un autre, qui va demander de l'argent en échange, donc il leur reverse en moyenne 528 euros par mois. C'est 150 euros la semaine qu'il faut reverser, même en été, quand il n'y a pas beaucoup de commandes, explique quelqu'un qui s'est fait appeler Paco, évidemment c'est pas son vrai nom. Lui est livreur à Paris depuis 10 ans, et il a travaillé longtemps sous un faux profil. Quel que soit leur statut, en tout cas, c'est leur unique source de revenus, puisqu'il est impossible de dégager du temps pour un autre emploi, sachant que 8 livreurs sur 10 travaillent au moins 6 jours par semaine. Et ça, bah, c'est encouragé par les plateformes et l'algorithme. Parce que si on bosse moins, après on reçoit moins de courses, c'est spirale descendante. Les répercussions en tout cas de la précarité de ce travail, hein, couplées au rythme de travail intensif, sont multiples sur la santé, qu'elle soit physique ou mentale. La dimension psychique déjà avait été rarement documentée jusqu'à cette étude. Pourtant la conclusion est attablante, hein. Un livreur sur deux présente des symptômes de dépression modérés à sévères, et la moitié des livreurs interrogés souffrent de troubles du sommeil. Cette souffrance psychique est une évidence, explique le témoin, la Paco. Les livreurs ne vivent pas, dit-il. Ils se battent au quotidien. On est à fond dans le travail et il n'y a pas de vie à côté. Ce métier est donc destructeur. 66% des livreurs souffrent de mal de dos, 63% de maux de tête et 53% de troubles du sommeil. 60% d'entre eux déclarent aussi avoir déjà eu au moins un accident du travail, principalement un accident de trafic, avec parfois des conséquences dramatiques. Parmi les autres symptômes physiques, d'ailleurs, qui sont moins connus, mais qui ont été révélés par l'étude, puisque ceux-ci ont peu d'accès aux toilettes, hein, parfois même les restaurateurs leur refusent l'accès aux toilettes entre deux courses, 32% des livreurs donc, se retiennent et déclarent avoir des troubles urinaires réguliers, et en plus, ils passent quand même une partie de leur journée vissés le cul sur une selle de vélo, ce qui n'est pas le mieux pour cette zone-là, ce qui provoque d'ailleurs aussi d'ailleurs, des troubles au niveau sexuel, hein. 12 heures d'affilée sur une selle, sans vélo homologué, sans siège adapté, les testicules sont écrasés, ce qui a des conséquences aussi sur le périnée. Alors donc tous ces maux liés à la pratique du vélo intense et à porter des plats, quelles que soient les conditions, et puis après à se taper les étages, entraînent donc beaucoup de problèmes de santé, mais le recours aux soins justement est rendu très difficile, que ce soit à cause de la précarité économique ou de l'isolement social de ces personnes. Parmi le millier donc, de ces livreurs interrogés dans l'étude, 98% sont des personnes immigrées. 68% n'ont pas de titre de séjour et sont donc contraints de louer un autre compte, comme je vous l'expliquais. Un livreur sur trois a donc renoncé à des soins de santé alors qu'il en avait besoin pendant son année. La plupart, bah, justement, à cause du manque de papier, donc pas de sécu, et les autres parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir se les payer. À la maison des livreurs, donc, dont je vous ai parlé à Bordeaux, c'est Médecins du Monde qui propose gratuitement des consultations médicales pour ces patients qui font passer leur travail avant la santé. Comme ils minimisent tout, après ça, ça engendre des douleurs chroniques, des problèmes chroniques. Il y en a déjà vu des cas ici où des fractures avaient été minimisées et des gens de Médecins du Monde ne s'en sont rendus compte que 2 à 3 semaines après, explique un docteur interviewé dans cette enquête. Et des accidents de la route, il y en a eu pour au moins une personne sur deux interrogée. Ça fait exactement 59% des livreurs, quel que soit leur véhicule, qui ont déjà subi au moins un accident. À la maison des livreurs à Bordeaux, elle a déjà recensé 23 accidents mortels depuis 2019, et ce, uniquement dans la presse. Donc il y en a peut-être qui sont passés sous les radars. Youssouf Camara, qui est donc à la maison des livreurs de Bordeaux et qui est interviewé dans cette interview que relaye le magazine Basta, explique, tu risques d'avoir des accidents sans même t'en rendre compte. Tu es sur ton vélo, au milieu de centaines de voitures, et tu es en train de penser à autre chose. Est-ce qu'il y aura suffisamment de commandes pour rentrer à la maison? Comment faire pour avoir un titre de séjour, pour nourrir ta famille, tout ça, tout ça. Puis tu acceptes une commande, ça te dit 7 euros pour 10 km. Bon, déjà, c'est mal payé, mais ok. Tu valides la commande, et là, tout d'un coup, c'est encore pire, parce que ça passe à 13 km. Parfois, c'est donc 3 euros pour 10 km. Tu es encore plus énervé tout seul sur ton vélo, explique ce livreur, qui explique donc l'état de stress dans lequel ils sont et qui fait que peut-être eux aussi, du coup, des fois, bah, font pas gaffe et se prennent une voiture. En tout cas, il n'existe pas de reconnaissance d'accident du travail dans ce cas-là, puisque justement, ils sont salariés. Ils ne sont pas salariés. Il y a non-reconnaissance de leur statut de salarié. C'est ce que le fameux miracle que a amené l'entreprise Uber. Deliveroo, Uber et les autres proposent simplement des assurances à souscrire pour les volontaires avec leurs partenaires privilégiés, notamment AXA pour la compagnie Uber. Pour ceux qui souscriraient à ces assurances, les conditions qui sont imposées, que ce soit en termes de délai, de documents à fournir par rapport aux accidents et des circuits de déclaration, tout cela crée un vrai parcours du combattant. Autant vous dire que les trois quarts n'y pensent même pas. Le coordinateur de la maison des livreurs à Bordeaux mentionne un autre cas emblématique d'un coursier qui a eu un accident, qui a fait 5 semaines de coma. Les proches n'avaient pas ses codes d'accès à son compte Deliveroo, donc tout était hors délai pour sa déclaration. Aujourd'hui, le gars est handicapé à vie et il n'a rien. Voilà, c'est terrible. Alors, les livreurs, bah, ils s'organisent entre eux bénévolement, hein, la solidarité. Notamment à Bordeaux, c'est l'association de mobilisation et d'accompagnement des livreurs qui a créé une ligne téléphonique d'astreinte, d'urgence, disponible 24/24. Ainsi, lorsqu'un accident est signalé, même en plein milieu de la nuit, c'est le collectif qui va se rendre sur place pour tenter d'aider la personne. 6 livreurs sur 10 déclarent par ailleurs avoir été déjà exposés à une agression verbale de la part des clients ou des restaurateurs. Mais quand ils n'ont pas d'accident, les conditions de travail ne sont pas du tout sereines. Oh, également, 60% de ces livreurs expliquent avoir subi des discriminations, puisque je vous le rappelle, 98% sont étrangers. Un quart mentionne une agression physique. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi des clients ou des clientes qui proposent une poisse, une passe, un rapport sexuel. Si le livreur refuse, son compte reçoit ensuite un commentaire négatif et automatiquement vous êtes déconnecté et donc vous n'avez plus de course pour la suite de la journée. Voilà l'ambiance. Ces abus graves de la clientèle sont permis par les plateformes, estime un coordinateur de cette maison des livreurs, puisqu'il explique accompagner régulièrement des livreurs qui se sont pris des points négatifs quand la clientèle a demandé à être livrée dans son lit, ou bien à aller chercher des clopes, ou à descendre ses poubelles. Mais chez Uber ou Deliveroo, personne ne montre une once de début d'intérêt à ces sujets. Seul le business compte. Voilà le rapport, il est terrible, hein, entre les plateformes et les clients, visiblement, le racisme, c'est ok, c'est raccord, et on accepte gentiment une situation d'importation du tiers-monde chez nous, voire on peut même parler d'esclavage. L'ubérisation, hein, la globalisation, était une forme de colonialisme intérieur. Et vu que ça touche, vous l'aurez compris, pour l'instant, principalement des étrangers, ça passe crème, ça n'émeut pas plus que ça. Mais on sait en général que ce que les franges les plus pauvres de la société peuvent accepter, bah, petit à petit, ça permet une acceptation pour d'autres franges de la société. Donc à vous demander qui seront les prochains sur la liste. Alors niveau législatif quand même, d'ici la fin de l'année, la France est censé retranscrire dans sa législation une directive européenne qui a été adoptée en novembre 2024, qui, elle, vise justement une meilleure régulation de ces plateformes. Cela inclurait une présomption d'emploi pour les livreurs, ce qui va donc renverser la charge de la preuve. Jusqu'ici, ce sont les travailleurs qui individuellement poursuivaient leurs entreprises en justice pour obtenir une reconnaissance de leur relation de subordination et donc du salariat. Ça peut être le cas quand on se fait virer, par exemple, pour pouvoir aller au prud'homme. En Espagne, nous explique justement un témoin, il y a eu la loi Rider en 2021. En Belgique, ils ont mis un minimum de rémunération, ou aux Pays-Bas, une condamnation est possible maintenant quant à l'utilisation des données des travailleurs. Et c'est donc la France qui est en retard pour protéger ses livreurs. Voilà, à voir donc quelle sera l'application de cette directive européenne. Est-ce qu'elle se fera à minima ou de manière plus extensive, ce qui permettrait notamment le recours à la médecine du travail. En attendant, lorsque la météo est mauvaise, qu'il pleut et que les clients restent donc chez eux en ville, ce sont toujours bien les livreurs qui continuent d'assurer le pic de commandes.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on continue à s'intéresser aux réglementations européennes, ou plutôt à la déréglementation européenne. Et cette fois-ci, c'est dans l'assiette que ça se passe et dans les champs, avec le renoncement à toutes les mesures de protection et de surveillance des cultures OGM qui est en train de se mettre en place, ce qui va notamment exposer l'agriculture biologique à des contaminations et lui laisser toute la charge des contrôles. toutes les digues vont sauter, ou presque. Avec cette déréglementation des nouvelles techniques génomiques, les NGT, qui, sauf coup de théâtre, sera votée au printemps, les OGM pourront se retrouver dans les filières alimentaires. Les nouvelles techniques génomiques, NGT, c'est donc les nouveaux OGM, hein, puisqu'ils ne sont pas produits de la même manière, mais le principe va rester le même. Ainsi, même dans les filières qui souhaiteraient rester exemptes d'OGM, comme dans le bio, qui interdit la présence de ces nouveaux OGM dans les produits, cela va être compliqué puisque la culture et la transformation de la majorité des plantes OGM pourront se faire sans aucune mesure de contrôle ou de traçabilité. Cette décision politique, elle est voulue par les États membres et la Commission européenne. Elle va donc dans le sens des défenseurs des biotechnologies, au nom, disent-ils, de mesures trop complexes ou coûteuses à mettre en place. Le recul de la législation par rapport à celle qui existe actuellement sur les OGM, il est colossal. Pour les NGT, dites de catégorie 1, c'est l'équivalent à des plantes qui ne sont pas modifiées génétiquement au prétexte qu'il y a moins de 20 modifications du génome, donc ce sont les plus légères, donc les NGT 1, plus aucune mesure spécifique ne s'applique. C'est même pas la peine de déclarer qu'on en cultive, qu'on en récolte, ou qu'on les vend, ou qu'on les cuisine. Elles ne sont plus du tout, elles n'apparaissent nulle part. Pour les NGT 2, elles qui sont un peu plus avancées, toujours considérées donc comme des OGM par l'Europe, les déclarations vont rester nécessaires, mais en revanche, rien pour éviter la contamination des champs ou de la nature, de l'environnement. Ces NGT, qu'elles soient 1 ou 2, pourront donc être cultivées partout, et ce, sans aucune restriction. Reste à charge pour les États qui voudraient imposer des mesures de coexistence entre des filières OGM ou non-OGM, eh bien de se débrouiller. Or, on le sait, c'est très compliqué dans la nature. Par exemple, la dissémination du pollen va sur plusieurs kilomètres pour le maïs, et même plus de 10 km pour le colza, expliquent les scientifiques. Des exemples existent déjà, c'est le Portugal en Europe qui est le seul pays européen à avoir cultivé des OGM avec l'Espagne. Pour eux, la solution a été jusque-là de séparer les régions, des régions où il y avait des cultures OGM et des régions où on faisait du bio. La contamination viendra aussi directement des filières en aval, puisqu'il n'y a pas l'obligation de tracer les produits NGT, donc de première catégorie. Exemple, un industriel de l'alimentation va acheter du blé sans savoir s'il est NGT ou pas. À charge, pour ceux qui n'en veulent pas, donc d'en faire la preuve. Et c'est cette situation qui met la bio en très grande difficulté, car elle devra seule assurer la garantie que ces filières sont étanches. Bernard Lignon fait partie du syndicat des entreprises agroalimentaires bio, Synabio, et il explique au journaliste de Reporter, qui l'interview ici, que les filières biologiques s'apprêtent à supporter les coûts pour garantir que leurs produits resteront sans OGM. Mais du coup, ça va faire augmenter les coûts dans les rayons qui sont déjà pas à la portée de tout le monde. Alors, comment faire pour garder une traçabilité de ces NGT ? Eh bien, ils vont s'appuyer sur le projet Darwin, un projet qui est en train de mettre au point justement des systèmes de détection. Ce projet était financé par l'Europe en 2020. C'est un consortium d'organismes scientifiques européens, dont en France l'agence l'ANSES et le CIRAD, et également la Fédération européenne de l'agriculture biologique, l'IFOAM. L'objectif de ce projet Darwin, c'est donc de développer des outils de détection des NGT, mais vous l'aurez compris, la réglementation, elle, vient justement... de ne pas rendre obligatoire la détection pour les producteurs. Donc la tâche est rendue difficile puisqu'il n'y a aucune obligation faite aux producteurs de NGT de donner des informations pour ces organismes qui pourraient leur permettre de les détecter. Et qu'est-ce qui a permis justement de ne faire qu'ils n'y soient pas obligés dans cette réglementation qui arrive ? Eh bien c'est parce qu'ils ont dit non, mais c'est impossible, c'est trop compliqué. Or, si on avait juste pu laisser le temps un petit peu aux chercheurs de bosser sur le cas, eux disent que si, c'est possible. Les premiers résultats, en effet, de ces programmes, comme Darwin, montrent qu'un contrôle est possible malgré tout. Mais la démonstration arrive alors que la déréglementation est déjà pratiquement votée. Cette analyse est d'ailleurs partagée par les ONG européennes, qui dénoncent eux aussi les financements tardifs de Darwin et d'un autre programme similaire qui s'appelle Detective. Pour eux, l'agenda a été savamment choisi pour permettre à la Commission européenne d'adopter cette proposition de déréglementation avant les premiers résultats des programmes. Ceux-ci ont donc conclu que la détectabilité était non seulement réalisable, mais souhaitable. Alors tout ça va coûter de l'argent. Face aux coûts supplémentaires et à la présence donc inévitable des NGT dans leur chaîne d'approvisionnement, que propose l'Europe à toutes ces filières du bio ? Eh bien, pratiquement rien. La seule réponse apportée par Bruxelles, c'est qu'en cas de contamination, les produits biologiques ne perdent pas leur label. Une réponse qui ignore les conséquences évidentes en matière de confiance dans la bio. Autre sujet de colère contre la bienveillance de Bruxelles face aux producteurs d'OGM qu'on appelle NGT maintenant, l'impossibilité de remonter la chaîne des responsabilités en cas de dommages et de contamination, puisque la traçabilité n'existe pas, ni l'étiquetage. C'est donc une inversion du principe pollueur-payeur qui fragilise économiquement les filières non-OGM qui seront des victimes sans coupable. Malgré l'énormité de cette situation, les dés semblent jetés, puisque la proposition européenne a déjà été validée par toutes les parties. Le texte doit maintenant être voté au Conseil de l'Union européenne, fin avril, et ensuite il repartira pour un vote des eurodéputés d'ici l'été. Voilà, avec la prérogative retour et cette déréglementation des OGM, hein, autant de décisions dans le style bien d'extrême droite, on se demande si bientôt l'extrême droite ne voudra pas plutôt rester dans l'Europe, vu la tournure que celle-ci est en train de prendre.
Allez, rebolle tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin.
Allez, on termine ces nouvelles du monde avec une petite actu du monde littéraire, ou en tout cas du monde des idées. C'est un chercheur français, Mathieu Rigouste, que vous connaissez peut-être, qui a été invité aux États-Unis à l'université de Yale. Eh bien, il a été interdit d'y entrer aux États-Unis. Il est invité donc à intervenir dans cette prestigieuse fac à Yale pour ses travaux autour de la néo-fascisation du monde. Eh bien, le chercheur en sciences sociales Mathieu Rigouste s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain par le DHS, le Department of Homeland Security, donc la sécurité intérieure, et ce sans aucune justification officielle. La décision empêche donc sa venue et plusieurs interventions prévues. Cela constitue, selon lui, une belle illustration, justement, des mécanismes qu'il analyse depuis plusieurs années et dont il comptait parler au cours de ce cycle de conférences. Il a été interviewé donc par Lit Actualité, un journal d'actualité autour de la littérature, et il explique « J'imagine que c'est lié aux sujets sur lesquels je travaille, ils doivent les considérer comme politiquement sensibles ou gênants. Mais, dit-il, on ne sait même pas s'il y a eu intervention humaine. On peut imaginer que la décision a été automatisée, par exemple via un traitement algorithmique. » Son éditeur, La Fabrique, relève qu'il venait défendre un livre qui n'est d'ailleurs même pas traduit aux États-Unis. Et ouais, les merveilles de la technologie. Dans le cadre du programme ESTA, c'est un système électronique qui permet à certains voyageurs d'entrer aux États-Unis sans visa pour une période courte, les autorités américaines ne sont donc pas tenues de détailler les motifs de leur refus. Alors que si on vous refuse un visa, normalement, il faut que ça soit un petit peu plus motivé. Du côté donc de l'éditeur, les éditions La Fabrique, on oscille entre une surprise relative, mais aussi une forme de résignation face au contexte. Cela paraît être surprenant qu'on empêche un chercheur indépendant d'entrer dans un pays à l'invitation d'une université. Mais quand on connaît la situation actuelle de l'université américaine, à laquelle Trump voue une haine sans nom, on n'est même plus vraiment surpris. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en effet, la politique d'entrée sur le territoire s'est nettement durcie. Plusieurs mesures ont permis de renforcer ces contrôles. Un décret qui impose un filtrage de sécurité très poussé depuis janvier 2025. De nouvelles restrictions pour certains ressortissants étrangers à partir de juin 2025, étendues début 2026. Et le tout avec un examen bien accru des profils en ligne, notamment les réseaux sociaux pour certaines demandes de visa. Hein, le moindre petit post qui se moque de Trump peut vous valoir un refus à l'entrée à la douane. Donc en plus, vous êtes marron pour le billet d'avion. Au-delà des motifs officiels liés à la sécurité, aux antécédents judiciaires ou aux règles migratoires, les autorités vont s'appuyer sur des données plus diffuses, comme les activités en ligne ou les réseaux relationnels. De cela dans un cadre discrétionnaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de vous expliquer ce qu'ils ont regardé et pourquoi. Un refus, en tout cas, de ce système automatisé ESTA n'est pas synonyme juridique, en tout cas du point de vue juridique, à un refus de visa, mais souvent c'est mal barré, puisque les autorités consulaires vont s'appuyer sur les mêmes critères de sécurité. Alors pour Mathieu Rigouste, qui avait aussi beaucoup travaillé sur la police en France, l'invitation à l'université de Yale n'était qu'une petite partie de son programme. Il avait d'autres rencontres avec des collectifs et des prises de parole dans différents espaces qui étaient prévus. Bon, bah, il va se rabattre sur des visioconférences, mais qui ne remplacent pas évidemment la richesse des échanges sur place. puisqu'il est spécialiste du domaine, il permet quand même de commenter cette décision en soulignant que ce type de situation ne se limite pas aux États-Unis, puisqu'en France, c'était l'autrice italienne Elena Mistrello qui avait été refoulée à son arrivée à l'aéroport de Toulouse, je vous en avais parlé. Elle venait participer à un festival de BD à Colomiers. Pareil pour une BD vieille, mais qui venait juste d'être traduite en français. Les autorités lui ont expliqué qu'elle faisait l'objet d'un signalement du ministère de l'Intérieur et qu'elle constituait une menace grave pour l'ordre public, sans plus d'explications. Son livre, c'est un livre pour enfants, je crois, tout à fait sympa, mais elle s'était dit qu'elle avait participé à des manifestations contre le fascisme, notamment à l'anniversaire de la mort de Clément Méric, et que c'était peut-être à cause de cette présence-là qu'elle n'était plus bienvenue en France. La fille venait d'Italie, hein, on est en Europe. Un autre cas récent, l'historien français Vincent Lemire n'a pas pu entrer en Israël quelques jours avant une série de conférences et de séminaires prévus à Jérusalem et Tel Aviv. En effet, on lui a révoqué son autorisation de voyage sans justification précise. Les autorités israéliennes avaient évoqué un changement de circonstances. Il est un spécialiste reconnu du conflit israélo-palestinien et lui avait estimé que cette décision visait ses positions jugées critiques envers le gouvernement Netanyahou. Il avait dénoncé une atteinte à la liberté académique. Mathieu Rigouste lui explique et rappelle qu'il avait déjà été personnellement confronté à des formes d'empêchement dans le cadre académique, hein, mais là au sein même du territoire, puisqu'il avait par exemple été empêché d'intervenir à l'école normale supérieure autour de la Palestine, ou une autre interdiction qu'on lui avait signifiée à l'université d'Evry sous la période de Manuel Valls. Pour ce chercheur, les institutions comme la police, la prison ou les frontières ne relèvent pas d'exception, mais d'un fonctionnement structurel. Ce qui caractérise la période actuelle, selon lui, c'est l'élargissement de ces dispositifs à des populations jusque-là moins exposées. La dynamique étant à des personnes qui n'étaient pas encore troublées, la normalité de la colonialité, des formes de contrôle historiquement ciblées, donc vers des populations colonisées, qui tendraient ainsi à se généraliser et à s'importer sous nos latitudes. Il inscrit donc ces évolutions dans un contexte plus large. La néofascisation s'inscrit dans une crise de suraccumulation du capital et dans une crise existentielle du capitalisme globalisé. Elle est une dynamique de régénération des puissances impérialistes. Et face à ces tensions, les États renforcent donc leurs dispositifs sécuritaires et militaires. Voilà, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce qu'il raconte dans son livre qui s'appelle « La guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire » aux éditions La Fabrique. Et dans la même veine, vous pouvez aussi vous procurer ou écouter des vidéos qui en parlent « Technofascisme » signé là par Norman Ajari. Voilà, je pense que ça illustre pas mal plusieurs des sujets dont on a traité aujourd'hui dans « Les Nouvelles du Monde ». Et puisque bon, on a terminé, je vous fais un petit point d'agenda local. J'ai reçu une invitation à la maison de région d'Alès pour mardi prochain, le 7 avril. Celui qui arrive, voilà. Et justement, on s'y posera la question de est-ce que la démocratie locale peut venir au secours de la démocratie. C'est Hassen Belmessous, qui est chercheur du Fait Urbain et auteur, qui présentera un cycle de conférences sur la démocratie locale dans la foulée des élections municipales, en questionnant notamment la désaffection citoyenne et des solutions proposées pour reconstruire un tissu démocratique dans nos territoires. Comment, dans ces conditions, peut-on fabriquer une destinée collective quand ce qui devrait nous relier, la démocratie, ne fait plus sens commun ? La démocratie locale, cette pierre angulaire de la condition citoyenne, ne forme-t-elle pas, au bout du compte, le lien originaire, un réenchantement démocratique? C'est en tout cas ce qu'essayera de vous proposer avec enthousiasme Hassen Belmessous ce mardi 7 avril à 18h à la maison de ma région à Alès. Et ça sera aussi animé par Catherine Bernier-Boissard, une géographe gardoise, docteur en sciences humaines et sociales, professeur des universités. Allez, voilà les amis, on se quitte là-dessus. Les Nouvelles du Monde, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, je dis.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.